Deuxième partie, les loups se mangent entre eux. Louis le Hutin tient son premier conseil.
Pendant 16 ans, Marigny avait siégé au conseil étroit, dont 7 à la droite du roi. Pendant 16 ans, il avait servi le même prince, et pour faire prévaloir la même politique. Pendant 16 ans, il avait été certain d'y retrouver des amis fidèles et des subordonnés diligents. Il sut bien ce matin-là, dès qu'il eut passé le seuil de la chambre du conseil, que tout était changé. Autour de la longue table, les conseillers se tenaient en même nombre à peu près que de coutume, et la cheminée répandait dans la pièce la même odeur de chêne brûlé. Mais les places étaient différemment distribuées, ou occupées par des personnages nouveaux. Auprès des membres de droit ou de tradition, tels que les princes du sang ou le connétable gaucher de Châtillon, Marigny n'apercevait ni Raoul de Presles, ni Nicole Le Loctier, ni Guillaume Dubois, légistes éminents, serviteurs fidèles de Philippe le Bel. Ils avaient été remplacés par des hommes tels qu'Étienne de Mornay, chancelier du comte de Valois, ou Béraud de Mercœur, grand seigneur turbulent et l'un des plus violemment hostiles depuis des années à l'administration royale. Quant à Charles de Valois lui-même, il s'était attribué le siège habituel de Marigny. Des vieux serviteurs du roi de fer, seuls demeuraient en dehors du connétable l'ex-chambellan Hugues de Bouville, sans doute parce qu'il appartenait à la haute noblesse. Les conseillers issus de la bourgeoisie avaient été écartés. Marigny saisit d'un seul regard toutes les intentions d'offense et de défi dont témoignaient à son égard la composition et la disposition d'un tel conseil. Il resta un moment immobile, la main gauche au collet de sa robe, sous son large menton, le coude droit serré sur son sac à documents, comme s'il pensait « Allons, il va falloir nous battre » et rassembler ses forces. Puis, s'adressant à Hugues de Bouville, mais de façon à être entendu de tous, il demanda « Messire de Presles est-il malade ? Messire de Bourdonnais, de Briançon et Dubois ont-ils été empêchés, que je ne vois aucun d'eux ? Ont-ils fait tenir excuse de leur absence ?» Le gros Bouville eut un instant d'hésitation et répondit baissant les yeux « Je n'ai pas eu charge de réunir le conseil, c'est messire de Mornay qui y a pourvu. » Se renversant un peu sur le siège qu'il venait de s'approprier, Valois dit alors avec une insolence à peine voilée « Vous n'avez pas oublié, messire de Marigny, que le roi appelle au conseil qui il veut, comme il veut et quand il veut. C'est droit de souverain. » Marigny fut au bord de répondre que si c'était en effet le droit du roi de convier à son conseil qui lui plaisait, c'était aussi son devoir de choisir des hommes qui s'entendissent aux affaires et que les compétences ne se formaient pas du soir au matin. Mais il préféra préserver ses arguments pour un meilleur débat et s'installa apparemment calme en face de Valois sur la chaise laissée vide à gauche du fauteuil royal. Et il ouvrit son sac à documents, en sortit parchemins et tablettes qu'il rangea devant lui. Ses mains contrastaient par leur finesse nerveuse à la lourdeur de sa personne. Il chercha machinalement sous le plateau de la table le crochet auquel d'ordinaire il pendait son sac, mais ne le trouva pas et réprima un mouvement d'irritation. Valois conversait d'un air de mystère avec son neveu Charles de France. Philippe de Poitiers lisait, approchant de ses yeux myopes une pièce que lui avait tendue le connétable et qui concernait un de ses vassaux. Louis d'Evreux se taisait. Tous étaient habillés de noir. Mais Monseigneur de Valois, en dépit du deuil de cour, était aussi superbement vêtu que jamais. Sa robe de velours s'ornait de broderies d'argent et de queues d'hermine qui le paraient comme un cheval de corbillard. Il n'avait devant lui ni parchemin ni tablette, et laissait à son chancelier le soin subalterne de lire et d'écrire. Lui se contentait de parler.